Session sur la rédemption, le 21 mai 1993, à Rimont, par le père Mariana, 9e conférence.
S'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Alors, ça sont des expressions difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun doit entrer dans le Christ avec tout son être. Comprendre qu'il est membre du Christ. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Il doit accueillir ce grand mystère de l'incarnation et de la rédemption et la révélation de l'amour qui est impliqué. S'il laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits non seulement d'adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour soi-même. Donc, s'il laisse le mystère du Christ s'emparer de lui, non seulement il sera un adorateur en esprit et vérité, mais en même temps, des fruits de profond émerveillement pour soi-même. Il se découvre à la lumière du Christ, dans l'émerveillement. Quelle valeur doit avoir l'homme aux yeux du Créateur s'il a mérité d'avoir un tel et un si grand rédempteur? L'exultait, n'est-ce pas? Pour celui qui accueille dans la foi le mystère du Christ, il doit découvrir la grandeur de son mystère à lui. Si Jésus, Fils de Dieu, est mort pour moi, qui suis-je? Pour avoir aux yeux du Créateur, mériter un tel rédempteur. C'est important de lier le rédempteur au Créateur. Parce que si je suis créé, c'est pour la vie éternelle. Si Dieu a donné son Fils, afin que lui, l'homme, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la révélation de l'amour est en même temps un éveil de la richesse de l'homme, de la grandeur de l'homme. En réalité, cette profonde admiration devant la valeur et la dignité de l'homme s'exprime dans le mot évangile qui veut dire bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. C'est que l'homme est aimé. Et qu'il est aimé à ce point que Dieu veut nous donner en partage sa propre vie. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc, c'est la nouvelle de la dignité de l'homme. Elle est liée aussi au christianisme. Cette admiration justifie la mission de l'Église dans le monde, et même peut-être plus encore dans le monde contemporain. Si vraiment nous accueillons le mystère de la rédemption et sa lumière sur le mystère de l'homme, nous comprendrions notre mission, qui est de faire connaître cet évangile. Parce que le monde d'aujourd'hui en a besoin, plus que jamais. Cette admiration qui est en même temps persuasion et certitude, parce qu'elle vient de la foi. Et celle-ci, dans ses racines fondamentales, est certitude de foi, sans cesser de vivifier d'une manière cachée et mystérieuse tous les aspects de l'humanisme authentique. Parce que c'est pas parce que je crois que je suis moins homme. Il faut à la fois la foi et tout l'humanisme humain, tout l'humanisme authentique. Eh bien, cette admiration, qui est en même temps persuasion et certitude, est étroitement liée au Christ. C'est elle qui détermine aussi la place du Christ et, pour ainsi dire, son droit de cité dans l'histoire de l'homme et de l'humanité. Comprenez, si vraiment l'homme a besoin du Christ pour connaître son mystère, le Christ a droit de cité auprès de tous les hommes, pas seulement des chrétiens. Et son mystère, c'est-à-dire la révélation de l'amour de Dieu qui est derrière, le Christ a droit de cité. J'ai pas besoin de justifier ma prédication du Christ. L'homme a droit à ça. Et même le Christ a droit d'être connu. L'Église qui ne cesse de contempler l'ensemble du mystère du Christ sait, avec toute la certitude de la foi, que la rédemption réalisée au moyen de la croix a définitivement redonné à l'homme sa dignité et le sens de son existence dans le monde. Donc, à cause de la croix de Jésus, l'homme retrouve sa dignité, sa grandeur, et donc le sens de son existence. Mais ce n'est pas quelque chose... Si vous voulez, un autre ne peut pas le connaître pour moi, ça. C'est toute connaissance de soi-même, pour découvrir la dignité, il faut que j'ai un regard, que ce soit mon regard, qui dise en vérité, oui, j'ai une dignité, j'ai une noblesse unique. C'est pas quelque chose d'erroné. Si vraiment ça naît de la foi, si vraiment je découvre que c'est la foi qui éclaire sur la dignité qui est la mienne, j'ai pas le droit de faire de moi n'importe quoi. Je vaux le Christ. Parce qu'on va dire ça. Mais c'est pas une science, c'est pas par un acquis dans un bouquin, c'est pas un autre qui le dit pour moi, c'est à moi de le découvrir. À partir du moment où je comprends que vraiment il y a un lien personnel, indissoluble, entre le Christ, sa croix et moi. C'est pourquoi la rédemption s'est accompli dans le mystère pascal qui conduit à travers la croix et la mort à la résurrection à cause du péché. À toute époque, et plus particulièrement à la nôtre, le devoir fondamental de l'Église est de diriger le regard de l'homme, d'orienter la conscience et l'expérience de toute l'humanité vers le mystère du Christ, d'aider tous les hommes à se familiariser avec la profondeur de la rédemption qui se réalise dans le Christ Jésus. Vous voyez, au fond, c'est la mission de l'Église qui naît de l'admiration. Puisque le Christ, celui qui l'approche, retrouve auprès de lui sa dignité, c'est un devoir de l'Église d'aider tous les hommes à diriger leur regard, à orienter la conscience et l'expérience de toute l'humanité vers le Christ. D'aider tous les hommes à se familiariser avec la profondeur de la rédemption qui se réalise dans le Christ. Voilà la grande mission de l'Église. En même temps, on atteint aussi la sphère la plus profonde de l'homme, nous voulons dire la sphère du cœur de l'homme, de sa conscience et de sa vie. Donc vous voyez, au fond, en faisant connaître le Christ, j'atteins l'homme dans ce qu'il a de plus profond. C'est ce qui est chez ce pape. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il parle à tous. Et tous accueillent le message. Parce qu'il parle au nom du Christ. Et cette parole touche toujours l'homme. C'est parce qu'on enseigne notre doctrine que ça passe pas. Mais si c'est l'évangile du salut, ça touche tout homme, puisque tout homme a son salut dans le Christ. Donc tout homme a besoin du Christ. Tout homme a besoin de se laisser regarder par le Christ. Tout homme. Et ça, ça appartient à ce qu'il est, puisqu'il est destiné à la gloire par le Christ, dans le Christ. Donc, vous voyez, il a droit de citer. Nul ne peut nous empêcher de parler du Christ. Nul. Et si nous cessons de le faire, on va contre l'esprit. Et on va contre l'homme. On va contre le bien de l'homme. Il me semble que c'est une parole qui est extrêmement forte, celle-là, parce que souvent, soi-disant par respect, je tais l'évangile du salut. Je dois respecter l'autre, et c'est le Saint-Père qui va y venir. C'est très très beau ce qu'il dit sur les autres religions. Mais on voit la question, étant donné la place du Christ dans l'humanité, il faut le prêcher à temps et à contre-temps. Alors, que faire avec les autres religions? C'est la question qui vient, évidemment. Vous pensez? Le Concile Vatican II a accompli un travail immense pour former la pleine et universelle conscience de l'Église dont le pape Pote VI a traité dans sa première encyclique. Toujours la conscience de l'Église et donc de sa mission. Cette conscience, ou plutôt cette autoconscience de l'Église, c'est l'Église qui se connaît elle-même, se forme, écoutez bien, dans le dialogue qui, avant de devenir colloque, doit tourner notre attention vers l'autre. C'est un langage on n'est pas habitué, vers celui avec lequel nous voulons parler. Comment l'Église se connaît-elle? Par son dialogue avec l'autre. Quel est cet autre qui va aider l'Église à être elle-même, à remplir sa mission? C'est découvrir celui à qui elle est envoyée, le monde. Donc, l'Église, dans ce dialogue, avant que ce soit dialogue, il faut, avant de devenir colloque, c'est-à-dire avant qu'il y ait vraiment une réponse mutuelle, il faut que l'Église se tourne vers l'autre, celui qui n'est pas elle. Il faut qu'elle connaisse celui à qui elle est envoyée. Et comme ça, elle va découvrir sa mission, ce qu'elle doit apporter, ce qu'elle doit faire. C'est Lumen Gentium, Gaudium et Spes. C'est lié. Le Concile œcuménique a donné une impulsion fondamentale pour former l'autoconscience de l'Église en nous présentant d'une manière adéquate et compétente la vision de l'ensemble du monde comme étant celle d'une carte de diverses religions. Ce monde auquel on est envoyé, c'est la carte de multiples religions. Il faut regarder le monde comme une carte des religions. Nous, on regarde une carte des pays. Alors, regardez la carte des religions. Il a montré en outre comment, sur cette carte des religions du monde, se superposent par couches, choses inconnues auparavant et caractéristiques de notre temps, le phénomène de l'athéisme dans ses formes variées, à commencer par l'athéisme programmé, organisé et structuré en un système politique. Donc, au-delà de diverses religions, il y a superposé le phénomène de l'athéisme. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec le mystère du Christ ? Quant à la religion, il s'agit avant tout de la religion comme phénomène universel. Ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Cette attitude de l'homme qui se tourne vers Dieu. Attitude naturelle. phénomène universel qui fait partie de l'histoire humaine, ça, personne ne peut le contester. Dans le monde, on le voit, la religion est partout. Et l'athéisme s'ajoute. Donc ça fait partie de l'homme, depuis son commencement. Parce que les premières traces qu'on a sont justement celles-là. Puis, des diverses religions non chrétiennes, et enfin le christianisme. Donc, dans les religions, il faut distinguer l'attitude religieuse, les religions non chrétiennes, les grandes religions non chrétiennes, ou les religions non chrétiennes, et le christianisme. Dans les religions non chrétiennes, voyons-nous particulièrement l'islam, l'hindouisme, le judaïsme. Oui, donc il y a, parmi les monothéistes, les religions monothéistes, on dirait l'islam, mais il y a d'autres religions. Hein, et, donc, il cite, n'est-ce pas, ces trois catégories. Le document conciliaire, alors écoutez bien, le Saint-Père, dès l'arrivée, il commence par mettre les pieds dans le plat, le fameux texte, n'est-ce pas, sur la liberté religieuse. C'est la première chose qu'il va regarder. Ce texte qui a divisé l'Église, hein, c'est le grand argument de Mgr Lefebvre. Mais ce qui est beau, c'est que le pape montre que c'est justement là qu'est la vérité. Il faut aller jusque-là. Le document conciliaire consacré aux religions non chrétiennes est en particulier plein d'une profonde estime pour les grandes valeurs spirituelles, bien plus pour le primat de ce qui est spirituel, et qui, dans la vie de l'humanité, trouve son expression dans la religion, puis dans la moralité, qui se reflète dans toute la culture. Donc, quand le Concile regarde les religions non chrétiennes, il y voit l'estime pour les valeurs spirituelles, profondes, le primat du spirituel, le moral. À juste titre, les pères de l'Église voyaient dans les diverses religions comme autant de reflets d'une unique vérité, comme des semences du Verbe, témoignant que l'aspiration la plus profonde de l'esprit humain est tournée, malgré la diversité des chemins, vers une direction unique, en s'exprimant dans la recherche de Dieu, et en même temps, par l'intermédiaire de la tension vers Dieu, dans la recherche de la dimension totale de l'humanité, c'est-à-dire du sens premier de la vie humaine. Donc, ces diverses religions manifestent quoi? Elles manifestent que le cœur de l'homme aspire et recherche Dieu. Et en même temps, la pleine dimension de son humanité. Au fond, l'homme cherche à être pleinement homme, en même temps qu'il tend vers Dieu. C'est lié. Le Concile a eu une attention particulière pour la religion judaïque en rappelant l'important patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, et il a exprimé son estime pour les croyants de l'islam dont la foi se réfère aussi à Abraham. Grâce à l'ouverture faite par le Concile Vatican II, l'Église et tous les chrétiens ont pu parvenir à une conscience plus complète du mystère du Christ, mystère caché depuis les siècles en Dieu, pour être révélé dans le temps, dans l'homme Jésus-Christ, et pour se révéler continuellement en tout temps. Et grâce à l'ouverture sur les religions, on voit mieux ce qui est le propre de la religion chrétienne. on découvre mieux, grâce à ce dialogue avec l'autre dans le respect, la richesse de la révélation chrétienne. Ce mystère caché depuis des siècles qui nous est révélé. Dans le Christ et par le Christ, Dieu s'est révélé pleinement à l'humanité et s'est définitivement rendu proche à elle, proche d'elle. En même temps, dans le Christ et par le Christ, l'homme a acquis une pleine conscience de sa dignité. Toujours, il dira ça toujours. Quand il parlera de Dieu, nouvelle révélation de Dieu, nouvelle dignité de l'homme. Donc, vous voyez, pour l'homme d'aujourd'hui, qui tend vers cette recherche de Dieu et cette pleine dignité de lui, l'Église catholique découvre la lumière unique qu'est la sienne sur le mystère de Dieu et sur le mystère de l'homme que lui donne le Christ. C'est le dialogue avec les religions qui doit nous éclairer sur la richesse de ce qui nous est confié. Il faut donc que nous tous, disciples du Christ, nous tous, c'est l'œcuménisme, hein, tous les chrétiens, pas les catholiques seulement, tous les disciples du Christ, nous nous rencontrions et nous unissions autour de lui. Cette union dans les divers domaines de la vie, de la tradition, des structures, des disciplines de chaque église et communauté ecclésiale ne peut se réaliser sans un travail sérieux. L'unité des chrétiens, ça implique un labeur tendant à la connaissance réciproque, à la suppression des obstacles qui se trouvent sur la voie de l'unité. Là, il y a du chemin à faire, c'est entendu. Il faut le faire, mais prenons le temps de le faire bien. Mais nous pouvons et nous devons d'ores et déjà parvenir à notre unité et la manifester en annonçant le mystère du Christ, en montrant la dimension à la fois divine et humaine de la rédemption, en luttant avec une persévérance inlassable pour cette dignité que chaque homme atteint et peut atteindre continuellement dans le Christ et qui est la dignité de la grâce, de l'adoption, en même temps la dignité de la vérité intérieure de l'humanité. Vous voyez, là, le chemin de l'œcuménisme, c'est de s'unir dans le mystère de la rédemption, c'est-à-dire de découvrir, au fond, ce que ce mystère apporte comme lumière sur Dieu. Et là, quelle que soit mon Église, le Christ me révèle l'amour du Père, que je sois protestant, etc. Là, on peut se retrouver tous sur la lumière du Père que le Christ apporte et la lumière sur le mystère de Dieu, de l'homme. Et ce mystère de l'homme dans toute sa dignité, double dignité, la dignité de la grâce, parce que nous sommes appelés à être des fils, mais en même temps la dignité de la vérité de l'humanité. Certes, je suis fils, je n'en suis pas moins homme. Et c'est dans l'unité qu'est voulu le dessein de Dieu. Ce n'est pas seulement fils de Dieu, la foi, l'espérance, la charité, le reste. Non, c'est le fils de Dieu dans l'homme. Et cet homme, il était bon. Cet homme, il doit retrouver sa dignité. Il doit découvrir toute sa force, toute sa grandeur. De la vérité intérieure qui est immanente à l'humanité. On diminue l'œuvre de la grâce quand on diminue l'homme, quand on lui enlève de la liberté. Si cette dignité a pris un relief aussi fondamental dans la conscience commune du monde contemporain, elle est encore plus évidente pour nous à la lumière de cette réalité qu'est le Christ Jésus. Oui, parce que le monde contemporain, il parle de droits de l'homme. Le monde contemporain a découvert une certaine dignité de l'homme. Combien plus nous, disciples du Christ, devons-nous en avoir le sens? Je crois que c'est ça qui est. Et donc, c'est la rédemption dans sa lumière sur l'homme, hein, que le Saint-Père veut vraiment nous faire saisir. Jésus-Christ est le principe stable, le centre de la mission que Dieu lui-même a confiée à l'homme. Il ne dit pas à l'Église, il dit à l'homme. Jésus-Christ est le principe stable, le centre permanent de la mission que Dieu a confiée à l'homme. Enlever ce centre, l'homme est errant. Nous devons tous participer à cette mission qui est de révéler à l'homme sa dignité. Nous devons concentrer sur elle toutes nos forces, car elle est plus que jamais nécessaire à l'humanité d'aujourd'hui. Si cette mission semble rencontrer à notre époque des oppositions plus grandes qu'en n'importe quel autre temps, cela montre qu'elle est encore plus nécessaire actuellement, et malgré les oppositions, plus attendue que jamais. Plus le combat est grand, plus le besoin est fort. Nous touchons indirectement ici le mystère de l'économie divine qui a uni le salut et la grâce à la croix. Au fond, là où il y a les plus grandes luttes, là sont les plus grandes manifestations de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Christ a dit « Le royaume des cieux souffre violence et les violences en emparent. » C'est vraiment, c'est notre part. Si on ne la prend pas, cette part, il y a quelque chose du mystère de la rédemption que nous n'accueillons pas. Le royaume des cieux souffre violence, et les violences en emparent. Et aussi, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Nous acceptons volontiers ce reproche pour ressembler à ces violents pour Dieu que nous avons vus tant de fois dans l'histoire de l'Église et que nous voyons encore aujourd'hui, pour nous unir consciemment, donc tous les disciples du Christ, dans la grande mission qui consiste à révéler le Christ au monde, à aider chaque homme à se retrouver lui-même en lui, à aider les générations contemporaines de nos frères et sœurs, les peuples, les nations, les États, l'humanité, les pays non encore développés, les pays dans l'opulence, en un mot, aider tous les hommes à connaître l'insondable richesse du Christ, parce qu'elle est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Donc, c'est clair, il n'y a qu'une mission, faire connaître le Christ, puisqu'il n'y a qu'un bien pour l'homme, c'est le mystère de Jésus. Je crois que ça, comment dire, ça reste extérieur, ça reste un très beau témoignage, si ce n'est pas une expérience personnelle du mystère de la rédemption. Il faut que Jésus nous fasse toucher sa part, sa place, dans notre vie. Ça ne sera pas sans la foi, sans l'espérance, sans la charité, mais tant que je n'ai pas fait ça, il y a quelque chose du dynamisme missionnaire de l'Église qui est tari, qui manque. Le Christ ne s'est pas révélé pour moi seulement. En se révélant, il me montre sa part pour l'humanité. Et donc, je ne peux plus me priver d'en témoigner. Et le Saint-Père insiste beaucoup pour rappeler, au fond, le sens dans le chapitre 4, le sens, du baptême, la mission qui est propre au baptisé, qui est vraiment de s'engager dans cette œuvre de rédemption. Je ne sais pas comment faire, mais... Écoutez, avançons. Ça va? Ou est-ce qu'il y a des... C'est quand même assez facile. Donc, je crois que c'est très important parce que plus je découvrirai le mystère de la rédemption, plus je découvrirai ma mission. Oui. Alors attention, le discours que je mène, c'est quoi? C'est de dire que Dieu aime tout homme dans sa dimension divine et dans sa dimension humaine. Donc ça veut dire quoi? S'il meurt de faim, tout faire pour qu'il mange. Sinon, ils ne sont pas hommes. Ah oui? Ah oui? Tout faire pour ça. Sinon, c'est contraire à l'Église. Il est venu sauver, il a guéri les malades. Ah oui, bon, attention, ceux qui subissent, moi, il faut que je leur montre que je travaille avec eux, que je les aide à découvrir cette liberté, et que par le Christ, je leur redonne l'espérance qui est la leur. Le Christ donne l'espérance, il leur fait comprendre que la situation où ils sont, elle n'est pas définitive. Ils doivent en sortir. Le problème de ces pays sous-développés, c'est qu'on est dans un tel marasme, il y a tellement peu d'espérance qu'on gère la misère. Mais on ne travaille pas pour le futur. Ce qu'il faut arriver, c'est justement réveiller l'espérance. Il n'y a que celui qui espère qui travaille pour demain, qui travaille pour ses enfants. Hein? Ben, moi, je crois que justement ce témoignage montre combien je ne peux pas apporter Dieu seul si je ne m'occupe pas de l'homme. Parce que la bonne nouvelle, elle est justement que Jésus s'est attaché à tout l'homme dans la vérité de son être. Qui est d'être homme, homme lié à un corps périssable, appelé à la vie, à vivre, à aimer, à connaître, à donner la vie, à connaître un bonheur humain, hein, appelé à ça, et en même temps à être enfant de Dieu. Certes, ici-bas, c'est ce que vient de dire le Saint-Père, ça se fait à la croix. Il y a un combat, il y a un enfantement, mais on voit dans la vie que l'homme n'a pas peur de cet enfantement du moment qu'il y a l'espérance de la naissance. Hein? Et c'est là qu'est le problème. C'est que le chrétien ne communique pas l'espérance. Au fond, il faudrait qu'il soit là, mais qu'il donne l'espérance. Parce qu'on peut accepter un enfantement difficile, vous n'avez qu'à voir, il y en a qui le font, hein? Du moment... qu'il y a un terme, et que ce terme, c'est la vie. Je peux accepter une épreuve si c'est pour le bien des autres. Pas si c'est un cul-de-sac. Hein? C'est ce que je crois que l'Église doit rendre l'espérance, mais elle doit prendre conscience que sa mission, elle ne se réserve pas là. Elle est là aussi. C'est tout un. Nous, frère Saint-Jean, nous, c'est la vie mystique. Notre rôle, c'est la vie mystique. On ne mange pas, on ne boit pas, pas grave. Non. Au contraire, les autres disent, moi, c'est l'entreprise, c'est donner à manger aux moines. Mais c'est faux, et l'un et l'autre. Notre devoir de tous, c'est tout l'homme. Sauver l'homme entier. L'univers, pas seulement l'homme. Il y a quelque chose, notre part. Et personne ne peut se trouver à l'abri d'une partie ou de l'autre. Car le Christ, lui, il a donné sa vie pour tout l'homme. Rédemption du monde et du cœur. Alors, le langage, comme vous dites, Côté Saint-Père, quand il dit à propos justement le chapitre qui suit, va montrer au fond, c'est l'aspect de la liberté de l'homme, la manière avec laquelle il a à répondre à ce message du Christ. Quel acte, quelle attitude l'homme a-t-il à l'égard du Christ ? L'homme, le chrétien, doit trouver les moyens pour que le Christ soit lumière. Puisque tout homme a droit au Christ. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas de recette. On peut se prêter, se mettre à la tâche, mais bon, je ne crois pas que quelqu'un puisse dire la solution, c'est ça et c'est ça. Le Saint-Père dit quand même la solution, c'est, si vous voulez, on va le lire. Au fond, il dit, c'est jamais la destruction du patrimoine humain, qu'il soit celui de la religion, qu'il soit celui de la culture, jamais destruction. Le Christ ne détruit pas le vrai patrimoine. Mais c'est toujours, comme il dit, dans l'estime de ces cultures, faire connaître le Christ. Et découvrir, puisqu'on est un peu pressé, enfin lisons quand même. Dans cette union, au plan de la mission, dont décide essentiellement le Christ, tous les chrétiens doivent découvrir ce qui les unit déjà, avant même que ne se réalise leur pleine communion. Donc il le dit bien, ne cherchons pas à être un d'abord, commençons par remplir notre mission. C'est là l'union apostolique et missionnaire, missionnaire et apostolique. Grâce à cette union, nous pouvons nous approcher ensemble du magnifique patrimoine de l'esprit humain qui s'est manifesté dans toutes les religions, comme le dit la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Donc ce sont les religions non chrétiennes. Donc, on peut accueillir leur patrimoine. Il y a une richesse dans ces religions. Vous n'allez pas dire, dehors, tout ça c'est du faux. Il n'y a rien de juste. Nous pouvons approcher du magnifique patrimoine de l'esprit humain qui s'est manifesté dans toute la religion. Grâce à elle, nous abordons en même temps toutes les cultures, toutes les idéologies. Entendez, c'est intéressant. Pour nous, le frère de Saint-Jean. Idéologie entendue de mode de pensée, forme de pensée. Pas idéologie au sens idéalisme. Pardon ? Voilà. Tous les hommes de bonne volonté. Donc, grâce à cette approche, nous abordons en même temps, cette approche des religions, nous abordons en même temps les cultures, les courants de pensée et les hommes de bonne volonté. S'ils sont dans la religion, ils ont une bonne volonté. Nous faisons cette approche avec l'estime, le respect et le discernement qui, depuis le temps des apôtres, ont marqué l'attitude missionnaire et du missionnaire. Il suffit de se rappeler Saint Paul et par exemple son discours devant l'Areopage. N'est-ce pas quand il dit j'ai admiré les nombreuses têtes et le sens que vous avez de votre devoir à l'égard de Dieu, de l'adoration. Et même, vous adorez le Dieu inconnu. Donc, il accueille, ça n'a pas marché, vous me direz. Mais il a, c'est pas une combine, hein, c'est pas un mensonge. Il n'a pas fait ça pour mettre de la confiture sur le pain, hein, faire avaler le morceau. Mais vraiment, il y a une attitude missionnaire qui consiste à respecter, avoir de l'estime et du respect. L'attitude missionnaire commence toujours par un sentiment, donc missionnaire, là il s'agit pour faire connaître le Christ, par un sentiment de profonde estime face à ce qu'il y a en tout homme. L'estime de celui à qui je parle. Pour ce que lui-même, au fond de son esprit, a élaboré au sujet des problèmes les plus profonds et les plus importants. Ce que l'homme, au fond, a découvert, a élaboré pour répondre à ses grandes interrogations. Il s'agit du respect pour tout ce que l'esprit qui souffle lui veut a opéré en lui. Donc, il faut bien sûr discerner. Hein. Mais l'attitude radicale, l'estime et le respect. La mission n'est jamais une destruction. Elle est une reprise à son compte des valeurs. Et une nouvelle construction, même si dans la pratique, on n'a pas toujours correspondu pleinement à un idéal aussi élevé. Voilà ce que c'est que la mission. Je comprends que le dernier texte, ça soit sur la mission de Saint-Père. Donc, la mission est une reprise à son compte des valeurs et une nouvelle construction. Il ne faut pas arriver avec notre histoire et hop, on lui fourre notre catéchisme avec notre manière de penser. C'est l'accueil de l'homme, lui faire découvrir, grâce à sa recherche radicale, que ce qu'il recherche, c'est le Christ, et que le Christ répond à sa recherche profonde. Voilà le missionnaire. Celui qui arrive à tellement écouter la quête de celui à qui s'adresse, qu'il voit comment lui faire toucher celui qui répond à cette quête. C'est pas du tout lui apporter un avoir et qui lui dit maintenant avec ça débrouille-toi. Alors on arrive, une chose qui m'a beaucoup marqué quand on va à Taïwan, tu vois les frères là-bas, la messe latin pour un chinois, oui un peu, c'est très très la forme très latine, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Non, non, nous on est arrivés. Et voilà, c'est ça ou c'est rien. C'est possible. L'essentiel était donné, il ne s'agit pas de critiquer. Mais quand même le concile apporte une lumière nouvelle pour que nous allions jusqu'au bout de la vraie attitude missionnaire, c'est-à-dire la mission de l'Église. Qui ne consiste pas du tout, d'ailleurs, si le christianisme a si bien mordu, c'est parce que justement, il s'est fait en lien, même s'il y a une rupture avec le paganisme, il y a une rupture, mais on voit bien aussi comment il a su assumer, la plupart des temples, des églises romanes, elles sont souvent juchées à l'endroit des autres temples, soit pour les détruire, mais aussi peut-être pour prolonger, pour guider l'homme. C'est pas en rupture. Nous, peut-être qu'on a une vision beaucoup trop timorée de la puissance de l'esprit qui au contraire, reprend à son compte les valeurs, ce qu'il y a d'homme, ce qui est humain, la grâce, prend l'homme et le conduit vers Dieu. Ne nie pas l'homme, ne nie pas sa culture. Alors, est-ce qu'il faut chercher l'inculturation? Non, il faut chercher le Christ, et le Christ s'inculturera. Mais il ne faut pas refuser l'inculturation. On ne doit pas chercher l'inculturation, on ne doit pas chercher absolument. On doit conduire au Christ, et celui qui est dans sa culture, lui, il va inculturer sa foi. Plutôt, il va laisser la foi ennoblir, reprendre à son compte les valeurs profondes de sa culture, de ce qui est humain en lui. Et moi, ce que je trouve comme c'est grand comme vision au fond du mystère du salut. Quant à la conversion, donc voilà l'œuvre de l'Église. Prendre à son compte. Mais la conversion qui doit prendre racine dans la mission, nous savons bien qu'elle est l'œuvre de la grâce. Hein? L'homme doit se retrouver pleinement lui-même. C'est pourquoi l'Église de notre temps accorde une grande importance à tout ce que le Concile Vatican II a exposé dans la déclaration sur la liberté religieuse, aussi bien dans la première partie du document que dans la seconde. Il insiste lourdement. Nous savons, nous sentons profondément le caractère engageant de la vérité que Dieu nous a révélée. Il faut accueillir la dignité des gens et leur liberté de croire. Nous éprouvons en particulier un sens très vif de responsabilité envers cette vérité. On doit la défendre, coûte que coûte. L'Église, par institution du Christ, en est gardienne et maîtresse, étant précisément dotée d'une assistance particulière de l'Esprit-Saint, afin de pouvoir conserver fidèlement cette vérité et l'enseigner dans toute son intégrité. On pourrait dire, n'est-ce pas, cette petite déclaration, mais d'accord, mettons entre parenthèses, ça fait des histoires, mettons entre parenthèses. Ben lui dit, c'est une vérité dont l'Église est gardienne et dont elle ne peut pas taire, et qu'elle ne peut pas taire, et qu'elle n'a pas le droit de taire. Il y a une profonde vérité qu'elle doit garder. Voilà. J'espère que la suite se...
Session sur la rédemption, le 21 mai 1990-93, à Rimont, par le Père Martin, 10e conférence.
Nous allons commencer à voir cet essai de regard sur la Bible du point de vue de la rédemption, et donc vous vous souvenez qu'on était dans les écrits joanniques. Alors on était en train de regarder l'expression de Jean, qui est l'expression de Jean-Baptiste.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est en Jean 1, 29. Et vous vous souvenez qu'on avait commencé à regarder dans l'expression de l'agneau de Dieu le terme agneau, qui rappelle donc deux choses dans l'Ancien Testament, en particulier l'agneau pascal d'Exode, du chapitre 12 de l'Exode, et puis la figure du serviteur souffrant qui est comparée à un agneau, donc Isaïe 53. Alors, je vous avais dit qu'en Isaïe 53, le terme de la version des Septante, je rappelle que la version des Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament, amnos, qui correspond, est exactement le mot qu'utilise Saint Jean dans l'expression agneau de Dieu. Donc, du côté du mot, il semblerait que l'expression de Jean-Baptiste renvoie à Isaïe 53. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'exégèse ne regarde pas simplement des rapprochements de mots, elle va aussi beaucoup s'intéresser à la structure du texte. Et du point de vue de la structure de l'évangile de Jean, il semble que le renvoi avec le mot agneau soit plutôt pour l'agneau pascal, vers l'agneau pascal. Alors c'est ça que je voudrais regarder avec vous. Regardez un peu la subtilité de Jean
telle qu'on peut la déceler. Alors vous savez, donc, voir comment Jean, par la construction de son évangile, oriente vers la saisie de celui qui est présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu, c'est l'agneau pascal, le véritable agneau pascal. Alors déjà, vous savez que dans l'évangile de Jean, vous avez l'évangile escandé par les fêtes de Pâques. À trois reprises, Jean manifeste que les fêtes de la Pâque ont rythmé la vie apostolique du Christ. Et il semble que tout le récit de la Passion soit rempli d'allusions à l'agneau pascal. Vous savez que le récit de la Passion, il commence en Jean 13 par cette phrase magnifique. Avant la fête de la Pâque, vous voyez, il marque bien la fête de la Pâque, qui ici marque l'entrée dans la deuxième partie de l'Évangile. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Alors le mot fin, dans la traduction liturgique, c'est jusqu'au bout. C'est le mot telos, qui signifie, avant de signifier fin, c'est l'achèvement, l'accomplissement. La réalisation. Donc, un des sens, on pourrait comprendre, c'est il les aima jusqu'à l'achèvement, jusqu'à l'accomplissement. Alors, puisqu'il y a une question là-dessus, vous savez que l'Épître aux Hébreux. Mais je vais continuer, puis je dirai ça tout à l'heure. Or, rapprochement possible avec l'Exode, où dans la version des 70, on nous dit que l'animal qui doit être sacrifié pour le sacrifice de la Pâque, pour l'immolation de la Pâque, l'agneau, le chevreau, doit être une bête achevée, accomplie, parfaite. Donc vous avez le même. La même idée exprimée par le mot apparenté teleios, qui veut dire achevé, accompli, parfait. Alors ça, évidemment, ça renvoie à tout ce que dit l'Épître aux Hébreux sur la manière dont le Christ a été rendu parfait, et toujours c'est le même terme, le verbe correspondant teleio. Alors ça, vous avez dans l'Épître aux Hébreux, c'est les fameux textes, par exemple, en Hébreux 2.10, ce texte étonnant, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Il convenait que devant conduire à la gloire un grand nombre de fils, c'est nous ça, celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, Dieu le Père, rendit parfait par des souffrances le chef de leur salut. » Donc Dieu rend parfait, achevé, accompli, par des souffrances le Christ. Vous retrouvez la même idée en Hébreux 5, 8, 9 et en Hébreux 7, 8. Toujours l'idée que le Christ va être rendu parfait parce que le Père lui demande de vivre. Alors, cela veut dire évidemment que le Christ a une perfection ontologique radicale dès le premier instant de sa conception. Il est le Fils de Dieu qui prend
la nature humaine, mais il est le Fils de Dieu. Et il a une plénitude de grâce qui ne va pas croître. Alors, qu'est-ce que veut dire cette perfection? C'est le problème que posent ces textes. Cette perfection, elle ne peut être que dans l'ordre de l'accomplissement du dessein de Dieu, pour ce qu'on dirait du côté, en métaphysique, du côté de l'acte, du côté du devenir. Toute la vie de Jésus, dans ce devenir, va être tout le temps portée par l'amour, vécue dans l'amour, dans l'obéissance. Et c'est cette perfection qui se réalise dans le devenir. Voyez, vous avez quelqu'un qui, comme nous, chacun de nous, nous sommes une personne précise, et ça ne change pas, et en même temps, notre vie est nouvelle à chaque instant. Pour le Christ, ça veut dire qu'il y a une perfection immédiate, mais à cela, il est homme et il vit dans le devenir. Et par là, il acquiert cette perfection particulière de vivre un devenir qui est toujours porté par la charité et l'amour divin. C'est, si vous voulez, c'est analogue à la différence entre ce qu'on dirait en théologie entre grâce habituelle et grâce actuelle. Entre quelque chose que vous avez de manière habituelle en vous, et quelque chose qui relève de la manière dont Dieu vous porte dans votre vie de grâce. Donc vous voyez, l'idée, c'est que pour que le sacrifice, pour qu'il y ait sacrifice, l'Exode et le Lévitique nous dit il faut que l'animal soit parfait. On ne peut pas avoir un animal avec défaut. C'est l'horreur. C'est vous volez ce que vous voulez donner à Dieu. Le sacrifice du Christ implique cette perfection qui pour lui vient de l'accomplissement parfait du vouloir du Père. Vous voyez? À partir du Timothélos. Vous avez d'autres indices que Jean vise l'agneau pascal. En particulier les indices, l'indice très fort qui Jean signale en 19,14 et 31 dans l'Évangile qu'il s'agit le jour où le Christ est crucifié de la préparation de la Pâque. De telle sorte qu'on puisse marquer le moment où le Christ est crucifié comme le moment où les agneaux pascals ou pascaux, non pascal, sont immolés dans le temple. Jean marque de telle manière qu'on puisse comprendre qu'il y a une coïncidence dans le temps entre l'acte de la croix et cet acte liturgique qui continue depuis l'Exode où on immole les agneaux pascals qui vont être mangés, immolés. Alors vous avez aussi le petit détail en Jean 19, 29 de l'hysope, qui est un détail complètement absurde. Là où les synoptiques vous expliquent qu'on place une éponge sur un javelot, Jean vous dit qu'on vous place ça sur une branche d'hysope. Dans la branche d'hysope, il paraît que c'est comme la marjolaine. La marjolaine, ça fait 20 cm au grand maximum. Donc vous imaginez un crucifié auquel on tend une éponge pleine de vinaigre au bout d'un truc mou et qui fait 20 cm. Donc on s'est dit, il s'est trompé. Il s'est peut-être pas trompé, mais il a fait exprès parce que l'hysope joue un rôle crucial dans le rituel de la Pâque. Vous pouvez le voir ça dans Exode 12, 22. L'hysope était une plante qui était censée être purifiante. Alors on l'utilisait pour des aspersions. Exactement comme nous, parfois, on utilise des rameaux de buis. Et dans le rituel de la Pâque, de l'immolation de l'agneau pascal, on prend le sang avec une touffe d'hysope et on la jette sur les endroits qui doivent le recevoir, c'est-à-dire le linteau des portes. C'est les petits détails illogiques de l'écriture, ils sont très intéressants. Il faut être friand des illogismes de l'écriture parce qu'il y a un sens plus profond que notre logique. Bon, et puis évidemment, la principale allusion, la plus forte, oui, vous avez un faisceau d'allusions, hein. Chacune est assez subtile. C'est en Jean 19, 36. Jean rapporte que les soldats romains s'approchent des trois crucifiés et pour faire ce qui est la pratique normale, pour abréger les souffrances, de briser les jambes de ceux qui sont crucifiés. C'est une pratique romaine normale. Et il y a cet étonnement de celui qui doit le faire, qui voit que le Christ est déjà mort, et il ne lui brise pas les jambes, mais il lui perce le côté. Et Jean signale, cela est arrivé pour que l'écriture s'accomplit, aucun de ses os ne sera brisé. Or, quand Jean parle de l'écriture, il parle surtout d'Exode 12:46. Où Moïse dit au peuple hébreu, vous n'en briserez pas un os. Donc vous voyez, vous avez tout un ensemble de petits faits qui vous montrent comment Jean a sans doute voulu montrer que de la même manière que son corps se substituait au temple, dans son sacrifice de la croix, le corps qui se substitue au temple, ça c'est le chapitre 2 de Saint Jean. Dans son immolation de la croix, il est le véritable agneau pascal qui prend, si vous voulez, son sacrifice revêt. C'est l'histoire de l'antitype, si vous voulez, ce qu'on avait dit au début, l'antitype par rapport au type. Tout ce qui est contenu comme sens allégorique dans l'agneau pascal trouve sa réalisation dans le sacrifice de la croix. Et par là, tous les sacrifices de la loi ancienne sont réalisés dans le Christ. Il faut peut-être signaler, et ça vaut peut-être le coup de le prendre un peu le temps, que tout l'évangile multiplie les allusions à Moïse et à l'Exode. Vous voyez ? Ce n'est pas simplement le récit de la Passion qui vous donne des petits signes que Jésus est le véritable agneau pascal, qui remplace l'agneau pascal et tous les sacrifices de la loi ancienne, mais tout l'évangile multiplie les liens entre ce que vit Jésus, entre son mystère et ce qui s'est passé pendant l'Exode et Moïse. C'est important parce qu'évidemment, on a vu que Moïse, bon, l'Exode, c'est la grande libération, c'est le grand rachat, ça on l'a vu, et Moïse, c'est la grande figure du médiateur. Alors ça, vous l'avez dès le chapitre 1, le verset 17, donc dans le prologue, la fin du prologue. Jean nous dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc là, il vous compare Moïse et Jésus-Christ quant à la médiation. Moïse a donné la loi au peuple d'Israël. Jésus donne la grâce et la vérité. Et évidemment, dans l'esprit de Jean, ce qu'il emporte, c'est cette médiation de Jésus. Et là, on retombe sur évidemment quelque chose de similaire à ce que dit saint Paul dans le rapport entre la loi et la foi. En 3:14, juste avant la phrase qu'on a vue, 3:16, de Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, vous avez à nouveau un parallèle. De même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Donc là, Jésus est comparé au serpent d'airain. Vous savez que ce serpent, c'était un serpent en airain, donc en bronze, que Moïse avait mis au bout d'un mât, et les fils d'Israël qui avaient été mordus par des serpents à la morsure mortelle, s'ils regardaient ce serpent d'airain, ils étaient sauvés. Donc il est comparé au serpent d'airain salvifique. Ensuite, vous avez bien sûr, dans le discours du pain de vie, au chapitre 6 de saint Jean. Nos pères, alors ça c'est les juifs qui parlent, qui disent ça à Jésus.
Nos pères ont mangé la manne au désert. Selon qu'il se trouve écrit, il leur a donné à manger un pain venu du ciel. Et Jésus répond, ce n'est pas Moïse. Vous voyez, encore une fois Moïse. Et ça, c'est Jésus qui introduit Moïse. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, c'est mon Père qui vous le donne. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Donc vous avez à nouveau là une allusion à la médiation de Moïse. Par la médiation de Moïse, les Hébreux dans le désert qui mouraient de faim ont reçu la manne. Et Jésus vous montre ce dépassement de la médiation de Moïse, dans le cas de Jésus, par un don direct du Père. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, c'est-à-dire lui-même, c'est mon Père qui vous le donne. Donc vous voyez, vous avez un dépassement de la médiation par le don direct. On retombe sur ce qu'on avait vu, sur cette intervention directe de Dieu qui est parfois affirmée au moment même, hein, faisons attention, au moment même, il y a toujours une médiation, c'est la médiation du Christ. Intervention directe de Dieu et médiation ne s'opposent pas. Donc dépassement de la médiation de type mosaïque, si vous voulez. C'est plus la médiation imparfaite qui est celle de Moïse. Et on a le don, alors là on retombe sur ce qu'on avait vu, de le don du Fils unique. Et non plus le don d'un pain qui n'entretient que la vie corruptible. Le Fils unique qui donne la vie éternelle. Et cela est mis en lumière, a contrario, par la manne, comme le dit au verset 49 Jésus, « Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. » Donc la manne était une nourriture corruptible qui ne servait qu'à entretenir que la vie du corps. Alors que ce que donne Jésus, c'est le pain véritable qui nourrit la vie éternelle en nous. Enfin, vous avez une dernière allusion, moins explicite, beaucoup moins explicite, en Jean 7, 37. C'est l'exclamation de Jésus pendant la fête des tentes, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. » Alors là, vous vous souvenez peut-être de ce passage des Nombres, du chapitre 20 qu'on avait lu hier, où Moïse et Aaron tapent sur le rocher et de l'eau coule, alors que la communauté meurt de soif, il n'y a pas d'eau. Donc, il y a peut-être là une allusion, surtout si on est guidé par ce que nous dit saint Paul, qui nous dit que ce rocher sur lequel, ce que je vous ai dit hier, ce rocher sur lequel frappe Moïse, c'est le Christ lui-même. Donc, vous voyez, quand on prend la série, c'est ça qui est impressionnant, on part d'une première comparaison qui est comparaison sur les personnes. C'est Moïse et Jésus. Sur les personnes des médiateurs. Puis Jean va quitter cette comparaison directe entre Jésus et Moïse. La comparaison maintenant va porter entre le Christ et différentes figures qui ont été source de salut. Le serpent d'airain est comparé à Jésus. La manne qui a permis au peuple hébreu de survivre dans le désert est comparé à Jésus. Le rocher doit couler l'eau qui a désaltéré le peuple qui était dans le désert, est comparé à Jésus. Toutes ces réalités étant liées à l'Exode, au séjour dans le désert et à Moïse. Donc vous voyez, tout ceci, c'est dans la première partie, avant le chapitre 13, où commencent les allusions directes à l'agneau pascal. Donc on a l'impression que Jean vous fait une espèce de construction où progressivement, par le jeu des symboles et des figures, il vous oriente vers la grande figure allégorique liée à l'Exode, qui est l'agneau pascal, qui aboutit, qui est là. La comparaison la plus forte, c'est pas la comparaison au serpent d'airain, c'est pas la comparaison à la manne, c'est pas la comparaison au rocher d'où l'eau coule, c'est la comparaison à l'agneau pascal. Mais progressivement, par une espèce de petite, une série d'allusions, Jean semble y conduire. Évidemment, la dernière allusion, c'est le sang. Le sang qui est celui qui permet, le sang de l'agneau pascal, qui est répandu sur le linteau et les montants des portes, permet au premier-né des Hébreux, dans la nuit pascale, d'échapper à l'extermination. Et vous avez ce sang qui coule du côté de Jésus. Alors, ce qui est très amusant, c'est que saint Paul est beaucoup plus direct. Là où vous avez toute une construction très subtile, très lente, de Jean, saint Paul se contente de dire « Notre Pâque, Christ, a été immolé. » Donc il dit la même chose en quatre mots. C'est en 1 Corinthiens 5-7. Mais c'est précieux parce que vous avez, voyez, une espèce de confirmation. Alors, on pourrait dire évidemment beaucoup d'autres choses sur l'agneau, mais je voudrais regarder maintenant l'expression « enlever le péché du monde ». C'est une expression originale aussi. Il n'y a pas de précédent, il y a une expression johannique. Donc la seconde partie... qui enlève le péché du monde. Donc qui vise la rédemption, évidemment. Qui est une expression que vous retrouvez en 1 Jean, dans la première épître de Jean, mais pas complète. Dans la première épître de Jean, Jean nous dit, celui-là, en parlant du Christ, s'est manifesté pour enlever les péchés. Ça, c'est la même expression. Et de péché, il n'en est pas en lui. Vous voyez, vous n'avez pas enlevé le péché du monde. Là, vous avez enlevé les péchés. Alors, il semblerait que... Vous voyez, le problème, c'est que vous avez là une expression qui est, donc, qui n'a pas de correspondant. Il semblerait quand même... qu'elle vienne d'Isaïe 53, c'est-à-dire de la figure du serviteur souffrant. Et la manière dont elle en vient est intéressante. Alors, si vous reprenez Isaïe 53, dans les versets 11 et 12, vous avez à la fin du verset 11, « Mon serviteur juste en justifiera beaucoup, et c'est lui qui prendra la charge de leur faute. » C'est la dernière partie du verset. « C'est lui qui prendra la charge de leur faute. » Et puis dans le verset 12, à la fin aussi, « Alors que lui-même a porté le péché de beaucoup, et que pour les coupables, il intervenait. » Alors, si on lit ce qu'a donné Jean en grec, et si on regarde la version grecque, ça ne correspond pas. Les Septante utilisent des mots dans leur traduction de l'hébreu. Les verbes grecs ne correspondent pas aux verbes grecs utilisés par Jean dans son évangile. Donc là, vous n'avez pas une possibilité d'un décalque, vous n'avez pas un décalque parfait. Mais si vous regardez l'hébreu, vous comprenez que vous pouvez traduire l'hébreu de manière à tomber sur l'expression de Jean. Donc, ça suppose, si cela est exact, cela suppose que Jean retraduit directement à partir de l'hébreu.
et rapproche ces phrases de l'agneau dont on parle au verset 53, au verset 7 du chapitre 53. Donc là, vous avez un enracinement de cette expression dans la figure, dans le chant du serviteur, dans la figure de ce juste écrasé par la douleur dans un sacrifice d'expiation, ce qu'on a vu. Alors, vous avez du monde. Or, dans Isaïe 53, vous n'avez pas du monde. Vous avez par exemple au verset 12, lui-même a porté le péché de beaucoup, des foules. Le mot hébreu, ça veut dire foule. Alors pourquoi il y a l'apparition du monde? La première réponse, ça pourrait dire, c'est qu'en hébreu biblique, vous n'avez pas d'équivalent pour le terme grec cosmos, qu'utilise saint Jean.
Jean écrit en grec?
Oui, oui. Jean écrit en grec, oui. Précision utile. Il n'y a pas de terme correspondant. Et puis, il semble que le monde, dans la théologie johannique, a une telle importance qu'on comprend qu'il va orienter donc sa lecture d'Isaïe 53, il va faire passer de beaucoup ce qu'on a retrouvé dans les synoptiques, hein, dans le récit de l'institution de l'Eucharistie, etc., à monde. Le monde qui, parmi les différents sens, le principal sens de monde pour Jean, et surtout dans la première épître, c'est le monde marqué par le péché. Donc ça correspond bien pour parler du péché du monde. Jean, dans la première épître, dit « Nous savons que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. » Donc, voyez comment l'expression « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » reprend les grandes figures que l'on a vues dans l'Ancien Testament. Aussi bien du côté de l'agneau pascal, du côté victimal, que du côté du sacrifice dans Isaïe 53. Sacrifice expiatoire. Alors, vous avez un aspect dans le jeu symbolique, vous avez toujours une multiplicité, c'est-à-dire que vous avez différents symboles exprimant une même réalité. Vous allez avoir un tout autre symbole qui va être utilisé par Jean et qui là aussi s'inscrit dans la continuité par rapport à l'Ancien Testament, c'est le symbole de la purification par l'eau. Et ça, c'est ce qu'on voit au chapitre 13 de saint Jean. Le lavement des pieds. Je vous cite juste dans Jean 13:8. Jésus dit à Pierre qui refuse que Jésus fasse ce qui est le geste de l'esclave, de laver les pieds. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et le symbolisme est dévoilé au verset 10. Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. Mais il est pur tout entier. Et vous, vous êtes purs, mais pas tous. Donc cette purification, ce lavement par l'eau, opère une purification. Il s'agit de devenir pur. Pour les apôtres, c'est fait. Un chouïa après, les pieds, qu'il faut continuer à laver. Puis il y en a un qui n'est pas lavé, qui n'est pas pur. Donc ça, évidemment, vous retrouvez là ce qu'on avait vu dans Ézéchiel. Je verserai une eau pure et vous serez purifié, enfin quelque chose comme ça. Et quand Jean va reparler de cette purification, va réutiliser le mot pur, il faut noter au chapitre 15, quand il va dire aux disciples, à nouveau, il va leur dire, pur vous l'êtes déjà. Et par quoi ils sont purs, ils ont été purifiés, là il va dire sa parole.
un aspect a priori original, c'est la parole de Jésus qui purifie. Bon, ça manque. Il y a des correspondants chez saint Paul ou chez saint Pierre. Et ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est cette parole que Jésus dit est reçue par un cœur qui s'ouvre dans la foi et dans l'amour. C'est voilà la purification. Alors, je voudrais dire un mot sur ce que je vous avais promis, c'est-à-dire la finalité de la rédemption. Donc ça, c'est l'acte lui-même de rédemption, ce qu'il est. C'est un acte sacrificiel pour Jean. On le voit merveilleusement avec la manière dont il fait comprendre que Jésus est le véritable agneau pascal. C'est un acte qui a un aspect de purification et de purification par la parole et qui aboutit au pardon. Pardon des péchés, les péchés du monde entier. Bon. En vue de quoi tout cela? Donc, quelle est la finalité pour Jean de cette rédemption? Alors, Jean au chapitre 10 fait parler Jésus, verset 10, qui dit « Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. » Donc c'est une surabondance de vie. Vous voyez, vous avez l'acte sacrificiel de Jésus qui est fait dans l'amour, qui est accompli dans l'amour. Et ce qui est accompli dans l'amour divin, a cette fécondité divine de la vie, de la surabondance de vie. Évidemment, on retrouve toute l'image de l'eau. Et Jésus précise au verset 28, « Moi, je donne aux brebis la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » Nul ne les arrachera de ma main. Donc c'est une vie éternelle. Ce que nous avions aussi sous une autre forme dans l'évangile d'aujourd'hui. Cette vie, c'est la vie même de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est clair? Qui nous permet, quand on la reçoit, de devenir enfant de Dieu. Donc ça, c'est le pendant du thème paulinien de l'adoption qui fait de nous des fils qui crions Abba, etc. Et enfant de Dieu, évidemment, c'est dans le prologue au chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, le Christ, le Verbe incarné, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Donc, nous recevons par la foi c'est la même chose que la purification qu'on a vu tout à l'heure qui se fait en recevant la parole de Jésus dans la foi. Nous recevons par la foi la vie même de Dieu qui nous rend enfants de Dieu. Mais cette vie, c'est Jésus lui-même. Jésus qui nous dit « Je suis la vie ». Et Jean, dans la première épître, dit
Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous.
Ça, c'est le prologue de, de l'Épître. Au chapitre 5, il revient sur le thème, il dit
« Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. » Et enfin, il conclut toute la première épître en disant, en parlant du Fils, « Son Fils, Jésus-Christ, c'est celui-là le véritable Dieu et la vie éternelle. » Donc, vous voyez, Jésus dit « Je suis venu pour que l'on ait la vie, on l'ait en surabondance, cette vie c'est la vie éternelle. » Et il nous fait comprendre, par la médiation aussi de Jean, que cette vie éternelle, c'est lui-même. Vous voyez, sinon, nous, on imagine une espèce de courant d'eau. Non, c'est le mystère même du Verbe, cette vie éternelle. Donc, il y a un aspect dans cette vie éternelle d'union au Christ. Mais vous voyez, ce n'est pas une union simplement parce que je l'aime beaucoup. C'est parce que je rentre dans cette vie qu'il est. Alors, c'est une union qui se fait parce que je l'aime beaucoup. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a un aspect ontologique qui dépasse. Alors, c'est pour ça que Jean va nous dire que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Au chapitre 17, la fameuse phrase où il définit, entre guillemets, la vie éternelle. Telle est la vie éternelle, telle est l'éternelle vie, qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, c'est cette vie du Verbe qui nous introduit, comme le dit la fin du prologue, dans la connaissance de Dieu. Et par l'union à lui, dans la connaissance aussi de ce qu'il est lui-même, le Verbe. Je ne peux pas connaître Dieu sans connaître le Verbe, je ne peux pas connaître le Verbe sans connaître Dieu. Et c'est une connaissance, vous voyez, qui nous. Cette vie éternelle qui est la vie même de Dieu, la vie même du Verbe, qui est une vie de connaissance et d'amour, c'est ce que l'on exprime par le terme de gloire. Et à la fin de la prière sacerdotale, au verset 24-26, Jean fait parler Jésus sur ce thème de la gloire. Père, c'est Jésus qui parle, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, dans la vie éternelle des trois personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, je veux que là où je suis, moi, cela aussi soit avec moi, pour qu'ils voient la gloire, la mienne. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi aussi en eux. Alors évidemment, vous voyez, on pourrait s'arrêter et retourner prier. Mais le but ultime est cette communion parfaite à la vie intime des trois personnes divines, vie d'amour, vie de connaissance. Vit dans un excès d'amour, dans une surabondance d'amour que l'on exprime par le terme de gloire, qui pour nous est une espèce d'excès dans le succès, d'excès dans le triomphe, d'excès dans la victoire. Et l'union au Christ implique de s'unir à ce que fait le Christ et à tout ce que son mystère même dans son incarnation comporte. Donc l'union au Christ, elle va faire que je vais adorer comme le Christ. Je vais vivre d'une vie d'adoration comme le Christ en a vécu. C'est la fameuse adoration en esprit et vérité. Et pour montrer qu'elle est pour tout le monde, pas simplement pour une élite, Jésus en parle à la Samaritaine. Donc au chapitre 4, verset 24. Vous savez, quand il dit « Tels sont les adorateurs que recherche le Père ». Qu'est-ce que cherche le Père à travers la rédemption? L'adoration
en esprit et en vérité de ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire l'adoration qui est l'adoration même du Fils. Et l'union au Christ va impliquer l'union à sa fécondité. Par son sacrifice pascal, le Christ connaît cette fécondité du grain de blé qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Et à notre tour, nous allons rentrer dans le mystère de cette fécondité par le même passage par la souffrance, par le même passage par l'aspect onéreux de la rédemption, qui fait qu'à notre tour, nous allons porter du fruit. Ça, c'est montré par Jean dans l'allégorie de la vigne. Donc, ça, c'est au chapitre 15. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc vous voyez, par le biais de cette fécondité, vous avez une glorification de Dieu. Vous avez cette gloire éternelle. Si vous voulez, on ne rajoute absolument rien à Dieu. Dieu, dans son mystère propre, connaît cette béatitude parfaite que l'on exprime par le mot « gloire ». Mais il a voulu la création de réalité autre que lui, rachetée par le Christ, et dont la vie, parce que c'est la vie même du Christ, reproduit ce mystère jusque dans la fécondité. Nous connaissons une fécondité analogue à celle que connaît le Christ et dont nous sommes nous-mêmes la preuve. Cette fécondité, portée par une vie d'amour, portée par la vie même de Dieu, elle rentre dans cette gloire et dans cette glorification de Dieu. C'est toujours le même mystère, si vous voulez, que nous participons à la vie même de Dieu, nous participons à la gloire de Dieu, et nous y participons y compris par notre sanctification qui glorifie Dieu. Comprenez qui pourra. Alors cette fécondité ne concerne pas simplement des individus juxtaposés. Elle concerne une multitude unifiée. Et ça, Jean va insister beaucoup. On ne va pas rentrer dans la gloire chacun pour soi. Enfin, c'est un mystère qui nous est personnel, évidemment, mais comme le dit le Concile, Dieu n'a pas voulu sauver les hommes séparément. Il a voulu les constituer en un peuple. Donc c'est cet aspect d'une multitude qui, par un certain aspect, est une, qui est la constitution de cette communauté, multitude une, ça s'appelle une communauté. C'est la constitution de cette communauté qui est l'autre aspect de la finalité de la rédemption. Un autre aspect, hein, ce n'est pas deux choses séparées. Alors, cet aspect de l'unité est très présent dans Jean. Bon, quand il parle des brebis au chapitre 10, Jésus dit « Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et c'est le fruit donc du sacrifice du Christ. Et ça, c'est la fameuse prophétie de Caïphe, du grand prêtre, au chapitre 12.